Matinale Info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
Les personnes que l'on voulait le plus toucher ne viennent pas parce qu'elles se sentent un peu éloignées de la démarche de soins, effectivement, peut-être plus en difficulté sociale. Elles se sentent peut-être pas concernées.
Le dépistage massif organisé à Roubaix peine à mobiliser. Les habitants ne se déplacent pas et pourtant, les courbes de contamination augmentent de manière continue.
La vaccination, quant à elle, se poursuit avec cette incertitude. Les retards de livraison annoncés par Pfizer vont-ils remettre en cause la stratégie française? Le gouvernement se veut rassurant, mais il faudra sans doute revoir le rythme de la vaccination.
Une page va se tourner. Tout à l'heure en Allemagne, on connaîtra le nom du successeur d'Angela Merkel à la tête du Parti conservateur, sans doute le futur chancelier.
Et puis cap sur la Côte d'Azur, en fin de journal, pour y admirer les mimosas en fleurs. C'est l'une des attractions de ce mois de janvier.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'était l'une des craintes avancées avant même le début de la vaccination. La production sera-t-elle à la hauteur de l'enjeu ? Le coup de frein des laboratoires Pfizer relance la question ce matin.
Le laboratoire annonce un ralentissement des livraisons en Europe dans les semaines à venir avec des conséquences évidentes sur le rythme de la vaccination, en France notamment. Anne Le Gall, pourquoi ce ralentissement aujourd'hui ?
Alors c'est un ralentissement qui ne touche que l'Europe, pas les États-Unis, en raison de travaux temporaires dans l'usine de Peurs en Belgique, et c'est aujourd'hui la seule qui fournit ce vaccin à toute l'Europe. Ces modifications dans l'usine visent à terme à augmenter le rythme de production, mais pendant quelques semaines, entre fin janvier et début février, le rythme de livraison de vaccins anti-Covid va ralentir. Pfizer assure qu'il livrera l'intégralité des doses prévues pour l'Union européenne à la fin du premier trimestre comme prévu, mais plus à la même cadence. Cela veut dire notamment que les 520 000 doses hebdomadaires attendues par la France n'arriveront pas selon le calendrier prévu. Le gouvernement assure que ce contretemps industriel ne remet pas en cause le déploiement global de la campagne vaccinale. Nous avons déjà reçu 1,5 million de doses de vaccin Pfizer et près de 400 000 Français seulement ont été vaccinés. Les stocks vont ainsi permettre de poursuivre les injections, mais il faudra ajuster le rythme en fonction de celui des livraisons qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr, la France peut aussi s'appuyer sur les stocks de vaccins Moderna, mais ils sont et resteront de toute façon plus faibles, seulement 52 000 doses reçues à ce jour.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, il n'y a pas pour l'heure de remise en cause de la stratégie. En France, la consigne, c'est toujours d'ouvrir la vaccination dès lundi aux plus de 75 ans et aux personnes atteintes de certaines maladies. Plus d'un million d'entre eux ont déjà pris rendez-vous hier.
Et qu'en pense François Drugy, ancien ministre de l'écologie, qui aujourd'hui préside une commission spéciale sur la loi séparatisme? Nous lui poserons la question tout à l'heure à 8h15. En attendant les premiers effets de la vaccination, on continue de scruter les courbes et le bilan n'est pas bon.
Il n'y a pas d'emballement, Pierre, mais cette hausse toujours progressive du nombre de cas, plus de 21 000 nouveaux porteurs du Covid dans les dernières 24 heures. Les courbes augmentent alors que de nombreux Français rechignent encore à se faire tester. Les campagnes de dépistage massif ne mobilisent pas.
On l'a constaté au Havre, à Charleville-Mézières et à Roubaix où l'opération doit s'achever aujourd'hui. À peine 5000 tests sur 96 000 habitants. Lionel Gougelot.
En ce milieu d'après-midi, la plupart des agents préleveurs patientent devant des boxes vides, l'impression d'attendre le client dans cette grande salle municipale du centre-ville. Les quelques habitants qui ont fait la démarche du test regrettent, eux, ce désintérêt de la population dans une ville qui a battu pourtant des records de taux d'incidence à l'automne dernier.
Comme on dit toujours, ça arrive aux autres, ça ne nous arrive jamais. Et un peu, les gens s'en foutent aussi, quoi, je veux dire.
Je comprends pas pourquoi ils sont pas motivés à venir. Ça leur fait plus peur, en fait. Alors qu'il y a eu quand même des morts, donc c'est inquiétant quand même.
Roubaix, une population fragile, de nombreux habitants en situation de précarité qui passe à côté d'une opération de prévention importante, regrette Sarah Boulanger, responsable du centre.
Les personnes que l'on voulait le plus toucher ne viennent pas parce qu'elles se sentent un peu éloignées de la démarche de soins, effectivement, peut-être plus en difficulté sociale, elles se sentent peut-être pas concernées.
Et même s'il n'a pas été massif, ce dépistage restera utile pour mieux cerner la situation sanitaire de la ville, assure le docteur Danquan, adjoint chargé de la santé, d'autant qu'il révèle un taux de positivité très faible à peine plus d'1%.
Ça nous rassure sur la circulation du virus qui actuellement est basse. Et deuxièmement, la fameuse recherche du variant anglais et on aura dans une semaine probablement les résultats du séquençage qui sera réalisé.
Au moins cette organisation d'ampleur aura été une répétition idéale pour la campagne de vaccination grand public attendue ici avec impatience. À Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pour freiner l'épidémie, il y a donc cette nouvelle consigne, Marguerite. Toute sortie sera désormais interdite après 18h.
Le couvre-feu est avancé sur tout le territoire et certains restaurateurs craignent des semaines encore plus compliquées. Exemple à Abaré en Loire-Atlantique où il faut maintenant faire une croix sur sa pizza du soir, reportage de Charles Guyard.
Zapat, bonsoir.
À l'arrière de son camion, garé au pied de l'église d'Abaré, entre Nanterre et Rennes, Patrick doit jongler entre ses pizzas à enfourner et les coups de téléphone des clients à qui il doit désormais refuser les commandes puisqu'il ne pourra pas les honorer avant 20h et le couvre-feu.
Je suis désolé, là, on doit finir à 20h, alors je ne peux pas vous prendre.
Ça, c'était jusqu'à hier soir, car dès ce samedi, les choses vont encore se compliquer.
Et la semaine prochaine, ce sera 18h, alors il faudra commander dès 14h.
Pour Patrick, l'extinction des feux à 20h lui avait déjà fait perdre plus de 10% de son chiffre d'affaires. Là, avec un confinement à 18h, c'est tout son business qui risque de s'effondrer.
20h, c'était la course. Maintenant, ça va être encore pire.
D'autant que le pizzaïolo itinérant pense collectif et pour lui, pas question d'ouvrir le midi et de faire concurrence à ses voisins restaurateurs des quatre communes dans lesquelles il s'installe.
Il y en a plein qui me disent de travailler le midi. Mais bon, les restaurateurs, ils commencent à se relancer dans leur emportée. Alors, si on commence à leur piquer leur boulot, déjà qu'ils ont eu du mal.
Et en temps normal, Patrick parvient à écouler une trentaine de pizzas par soir, 5 jours sur 7.
Merci, au revoir.
À Barré, Charles Guyard, Europe 1.
Ce couvre-feu avancé s'applique donc dès aujourd'hui, avec toutefois des dérogations pour rentrer du travail ou chercher vos enfants. Il faudra pour cela remplir une attestation téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Eux n'attendent qu'une chose, pouvoir se retrouver dans un amphi. Étudiants et professeurs d'université ont rencontré Jean Castex hier. On sait que les TD pour les premières années pourront reprendre par demi-classe le 25 janvier prochain, mais pour l'instant c'est à peu près tout. Les précisions de Virginie Riva.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une satisfaction, dit son entourage. À l'heure où l'on serre la vis et où l'on instaure le couvre-feu, le fait que les étudiants puissent reprendre, même au compte-goutte, est une bonne nouvelle. Matignon veut désormais attendre de voir l'impact sanitaire de cette première reprise très partielle en TD pour les premières années, expliquent les présidents d'université, ce qui les inquiète. Car pour organiser une reprise progressive dès février, comme l'avait laissé entendre Emmanuel Macron en novembre, le temps presse. Alors que les universités, elles, ont déjà des scénarios de reprise. Guillaume Gelet, vice-président de la conférence des présidents d'université.
Les ratios de mètres carrés par étudiant dans les universités sont beaucoup plus favorables que ceux des lycées, par exemple. Et donc, nous sommes capables, en gérant cet espace au mieux, avec des jauges adaptées par unité de lieu, d'accueillir des étudiants, de sorte à ce que au moins tous les étudiants puissent venir une fois par semaine sur leur campus.
Le Premier ministre s'est dit à leur disposition pour les revoir et avancer, mais la reprise est clairement liée à l'évolution des conditions sanitaires inconnues à ce stade. Les présidents d'université doivent également fournir des garanties quant au dépistage et au traçage des étudiants contaminés.
Virginie Riva, un DJ de 23 ans, a été condamné à 210 jours de travaux d'intérêt général. Il avait organisé une fête clandestine mi-décembre. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées dans une cave en Indre-et-Loire.
Il est 6h08 ce samedi, est un jour ô combien important en Allemagne. Ce qui s'y joue est presque l'équivalent d'une présidentielle en France.
Oui, on sait qu'après 15 ans de mandat, Angela Merkel a décidé de quitter le pouvoir l'été prochain. Il y a fort à parier, vu les sondages, que le candidat de son parti soit le nouveau chancelier. Mais qui sera-t-il ? La CDU vote à midi. La seule certitude, c'est qu'un homme sera élu, Hélène Kohl.
Les délégués conservateurs vont devoir départager trois hommes catholiques de l'Ouest. Il y a tout d'abord Armin Laschet, c'est un fidèle lieutenant d'Angela Merkel, un homme tout en rondeur qui veut poursuivre l'œuvre de la chancelière au centre. Mais il a longtemps minimisé le danger du coronavirus, il a très mal géré l'épidémie dans le land qu'il dirige, la Rhénanie, et il s'est décrédibilisé. Face à lui, avec le soutien du puissant groupe de presse Springer et des milieux d'affaires, il y a un ancien rival de Merkel, Friedrich Merz, évincé par la chancelière. Hier, il y a 20 ans, il veut sa revanche avec un leadership décomplexé et tape à l'œil. Ce millionnaire a travaillé pour le gestionnaire de fonds américain BlackRock. Il plaît à tous ceux qui n'ont pas aimé la politique d'accueil des réfugiés de Merkel, l'abandon du nucléaire ou la fin du service militaire. Et puis comme toujours, il y a un troisième homme, Norbert Röttgen, spécialiste des questions internationales, un modéré, discret, ancien ministre de l'Environnement, mais écarté du pouvoir par Merkel elle-même après une défaite électorale. Il lui en a gardé rancune. Il pourrait créer la surprise en étant l'homme du compromis. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Aux États-Unis, la Floride, elle aussi mobilise sa garde nationale en prévision des manifestations des prochains jours. C'est le cas déjà à Washington. Les secteurs clés de la capitale sont barricadés à 5 jours de l'investiture de Joe Biden. Le 20 janvier, Donald Trump quittera la Maison-Blanche, lui, à l'aube. Il n'assistera pas à la cérémonie.
Allez, passons au football. Et faut-il s'inquiéter pour Kylian Mbappé ?
Oui, depuis le début de la saison, l'attaquant du PSG est moins étincelant, moins déterminant dans le jeu. Son état est source d'inquiétude, Julien Froment.
12 buts, 5 passes décisives en 15 matchs avec le PSG. Sur le papier, Kylian Mbappé est largement dans ses standards. Mais depuis quelques semaines, le champion du monde français est moins bien sur les pelouses. Emprunté, ratant des passes faciles, le natif de Bondy fait moins de différence grâce à sa vitesse. Mbappé lui-même le reconnaissait en octobre dernier. Il doit faire évoluer son jeu.
Je pense que je dois évoluer. Je prends conscience. Après, c'est pas parfait, hein. Il y a des matchs où j'ai pas été bon. Mais je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu gagnes pas tout seul. Et ça, c'est le plus important.
Son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, n'est pas inquiet des performances de son attaquant, bien au contraire.
Je suis très content du rendement de Kylian. On a analysé son dernier match et il a fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. C'est un joueur très important pour nous. On attend toujours de grandes choses de lui, mais c'est clair que ce n'est qu'une question de temps pour qu'il marque et fasse des passes décisives.
Avec le retour au premier plan de l'Argentin Mauro Icardi, la bonne forme de l'Italien Moïse Kean, l'entraîneur parisien pourrait être tenté de le faire souffler ce soir contre Angers. Reste à convaincre le principal concerné, Mbappé, qui, comme toutes les superstars, goûte très peu au séjour sur le banc de touche.
Julien Froment, lui, assurément, ne sera pas au stade ce soir. Le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a contracté le Covid. Angers-PSG, c'est à 21h. Avant cela, Marseille reçoit Nîmes à 17h. Puis sachez qu'hier, Monaco a battu Montpellier et se rapproche donc du podium.
C'est justement pas très loin de Monaco que vous nous emmenez, Marguerite, pour terminer ce journal.
Oui, direction Mandelieu, la Napoule, pour respirer comme si on y était, les parfums du Mimosa. C'est la pleine saison et Frédéric Michel a profité d'une visite guidée.
Alors bienvenue au cœur de la jungle tropicale de Mandelieu, la Napoule. Alors, moi je suis Maddy Polomeni et je suis guide de randonnée. Donc on est ici dans le massif du Tanneron et ici vous êtes dans la plus grande forêt de mimosa d'Europe.
Très bien.
On commence à monter.
Ouais. Ben, on vous suit.
Donc on est sur un parcours qui est un petit peu accidenté.
Ça peut être mieux de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît bien le secteur, qui guide et qui donne en plus des informations sur la faune, sur le lieu où on est, l'histoire.
Là juste en face, la mer là que vous voyez face à nous, ça c'est la baie de l'Airain.
C'est sûr que depuis le premier confinement, dès qu'on peut... Le truc, c'est ça, c'est sortir, hein, on ne peut plus. Hein. Puis le mimosa, ça a quelque chose de romantique, surtout dans cette colline de Tanneron qui devient toute jaune d'un coup, c'est magique ça. Hein.
Alors en fait, le mimosa, il a été importé par les Anglais qui à l'époque avaient les colonies en Australie. Ces riches colons anglais, ils avaient des villas sur la côte d'Azur où ils venaient passer les vacances d'hiver. C'est il y a à peu près 200 ans cette histoire-là. Et ils cherchaient simplement des fleurs à mettre dans leur jardin à cette période et qui fleurissent. Et donc au départ, on a planté juste un petit champ comme ça, un deuxième, un troisième. Et en fait, ça a pris tellement d'essor que c'est finalement grâce aux plantations de mimosa que Mandelieu s'est développé. Et c'est pour ça qu'on avait créé la fête du mimosa. On va attendre Chantal, donc je répéterai. Allez-y tranquille, on est arrêté. Prenez votre temps.
Voilà pour cette carte postale signée Frédéric Michel. Et Valérie Darmon nous signale à l'instant l'extension de la vigilance orange pour neige et verglas. Vigilance étendue à 26 départements de la Bourgogne au Hauts-de-France.
Ouais, et le point précis avec Valérie tout à l'heure, juste avant 6h30.